Bien chers auditeurs de Radio Courtoisie, bienvenue à Magnificat, l'émission de l'association Marie de Nazareth. Retrouvez toute notre actualité sur notre site mariedenazareth.com. Vous êtes-vous déjà rendu sur notre encyclopédie mariale? Certains prêtres m'ont confessé, si j'ose dire, qu'ils s'y rendaient, y trouvant des éléments intéressants pour leurs homélies. Donc cette encyclopédie, vous le verrez, est très fournie, donc je vous invite ardemment à la consulter. Bonjour Justina.
Bonjour.
Un sujet étonnant aujourd'hui, mais bien intéressant, la loi et la grâce, pourquoi les chrétiens se nourrissent de tout?
Oui, tout à fait.
Effectivement, pourquoi les chrétiens ne sont-ils pas restés fidèles aux préceptes des juifs? Bon, vous nous expliquerez tout ça. Et puis nous aurons de nouveau Anne Dabas. Bonjour Anne.
Bonjour France.
Et nous en changerons au sujet de la vie christique du Père de Montfort. Nous reparlerons un petit peu du Magnificat. Et nous parlons toujours de la Vierge Marie, bien évidemment, en évoquant ce saint. Voilà, tout cela pour, ne l'oublions pas, toujours mieux nous rapprocher du Christ. Alors Justina, les chrétiens mangent de tout, et ce depuis quand et pourquoi?
Et ce, depuis quasiment le début. Donc, nous revenons cette semaine sur nos rails d'apologétique pour aborder les sujets qui fâchent. Et je ne vais pas vous cacher que cette intervention est inspirée par des questions qui apparaissent souvent dans le cadre des discussions, voire des débats qui se passent actuellement sur les réseaux sociaux. Et pour cela, je les considère comme d'actualité, même si, à mon humble opinion, cela ne devrait pas être le cas.
Alors, juste une question sur les réseaux sociaux, parce que vous êtes sur TikTok.
Oui, je gère la chaîne orthodoxie.tv.
Que je vous invite à aller, parce que je vous rappelle que Justina, qui est spécialiste en théologie, est une, comment dirais-je, une influenceuse orthodoxe.
Influenceuse, non.
Quand même.
J'aime pas le mot en fait.
Voilà, mais... c'est ça. Mais pourtant, c'est comme ça qu'on appelle les personnes qui font ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Alors, retournons à la nourriture des chrétiens.
Oui, quelque part, le fait qu'on en parle aujourd'hui, c'est peut-être une bonne nouvelle. Car de mon côté, j'observe un regain d'intérêt chez des jeunes de 18-25 ans pour le phénomène religieux. Donc, et cela veut dire que je ne risque pas d'être au chômage. Mais de l'autre côté, cela m'oblige à revenir sur des questions réglées depuis des siècles. Donc la question d'aujourd'hui, pourquoi les chrétiens mangent-ils de tout, tandis que Jésus-Christ, dans son humanité, était juif et par conséquent ne mangeait pas de tout. Premier point, malgré l'existence de certaines dévotions comme l'imitation de Jésus-Christ dans certaines congrégations au sein de l'Église catholique romaine, à aucun moment cette imitation ne sous-entend une approche littéraliste. Les dévots en question ne sont pas circoncis, ne mangent pas cachère, ne passent pas 3 ans à prêcher en vagabondant en Terre Sainte pour enfin se faire crucifier sur le mont Golgotha et ne ressuscitent pas au 3e jour que je sache. Bon, je m'emporte quand je réduis une idée à l'absurde. Parlons sérieusement, pourquoi les chrétiens apostoliques estiment que nous ne sommes pas soumis à la loi de Moïse? Je rappelle que la loi mosaïque est constituée de points de contrat entre Dieu et le peuple d'Israël. Les 10 commandements, connus comme le décalogue, font découler naturellement les 613 mitzvot dans la tradition juive.
Je rappelle que les mitzvot sont des prescriptions, c'est ça?
Exactement, et donc il y a une bonne moitié, même plus de la moitié, qui sont des interdits. Donc ne fais pas ça, et d'autres qui sont des commandements de faire ceci ou cela. Et cela nous concerne-t-il? Voilà la question qui s'est posée du temps des apôtres. Que faire des chrétiens issus des nations non juives? Faut-il d'abord en faire des juifs pour ensuite les accepter dans l'Église du Christ? Ou bien peut-on les accepter directement sans les soumettre à la loi? Les apôtres Pierre et Jacques sont convaincus que oui, qu'il faut devenir juif avant de devenir chrétien. Mais l'apôtre Paul et ses disciples insistent que cela n'était pas nécessaire.
Effectivement, il y avait ce débat de savoir s'il fallait d'abord être juif avant d'entrer dans la communauté chrétienne. Et puis cette question a évolué sous l'influence des pharisiens devenus chrétiens, avec l'observance stricte de la loi. Mais cette question est double. Et nous y voyons cette question primordiale. Le discours de Pierre répond à la fonction du salut, tandis que celui de Jacques s'articule en fonction de la loi. Nous comprenons que la vraie question est celle du rôle du Christ dans le salut de Dieu, et donc l'organisation des rapports entre juifs et non-juifs, c'est ça? Je m'égare.
Non, ça va. Mais bon, on va essayer de rester ne serait-ce que sur la nourriture, car même Pierre qui défendait la position pro-loi de Moïse, il a reçu une vision qui est mentionné dans les actes, qui abolit les catégories de pureté ou d'impureté concernant les animaux comestibles. Plus délicate et plus polémique, la question de savoir que faire des chrétiens issus des peuples païens se pose. Est-ce qu'il faut les circoncire et les obliger à respecter le reste de la loi ? Donc, mais après des longs débats, au Concile de Jérusalem, la réponse finalement est négative. Les règles donc, de cacheroute, la nourriture cachère, je rappelle qu'il ne s'agit pas tout simplement de ne pas manger de porc, mais il y a toute une liste d'animaux interdits, et même s'il y a des animaux autorisés, on ne mange pas tout simplement du bœuf parce que c'est autorisé, mais faut-il qu'il soit abattu dans les bonnes conditions, on ne peut pas manger toute partie de ce bœuf, etc. etc. Bref, vous pouvez regarder sur les sites juifs comment ça se passe, c'est très difficile même pour faire une omelette. C'est pas du tout quelque chose qui va ressembler au concept du halal, hein. C'est beaucoup plus détaillé. Et la question, donc, toutes ces observances rituelles de l'Ancien Testament sont abolies pour les chrétiens issus de Goïm, hein, peuple au pluriel en hébreu. Il leur est demandé de ne pas consommer de la viande des animaux sacrifiés aux idoles, de ne pas se livrer à l'adultère, à la fornication. Et en fait, quelque part, ça correspond à une idée qu'on peut retrouver dans la pensée du judaïsme rabbinique. En effet, si les juifs eux-mêmes ne sont pas prosélytes, je pense que tout le monde l'avait remarqué, c'est pour la bonne raison qu'ils pensent que l'alliance avec Israël ne concerne que eux. La tradition orale juive affirme qu'il existe une autre alliance, effectivement, qui est décrite dans l'Ancien Testament, entre Dieu et les nations, donc non juives, celle de Noé. Et donc elle ne comporterait que 7 points. Premier point, le monothéisme, interdiction d'idolâtrie. Deuxième point, interdiction de blasphème par respect envers Dieu. Point 3, interdiction de tuer par le respect de la vie humaine. Point 4, interdiction de l'adultère par respect envers la famille. Point 5, interdiction de vol par respect de la propriété d'autrui. Point 6, interdiction de consommer des parties de viande découpées d'un animal encore vivant par le respect des êtres sensibles. Point 7, l'obligation de créer un système de justice. Si cette idée était déjà présente dans la tradition orale pharisienne, il n'est pas étonnant pour que Paul et ses disciples, finalement, se sont appuyés dessus pour cette discipline des chrétiens issus des nations, puisque les points que nous voyons dans le Concile de Jérusalem correspondent plus ou moins avec ce concept du noadisme. Le noadisme, c'est donc... C'est un mot par lequel les Juifs, justement, ont une idée de cette alliance entre Dieu et les non-Juifs. Donc, l'observance de ces fameux 7 points. D'un point de vue juif, un non-Juif qui respecte ces 7 points, il est sauvé.
Très bien.
Donc, l'épître de Paul aux Galates est entièrement dédiée au sujet dont nous parlons aujourd'hui. Les Galates sont des tribus celtes qui demeuraient en Asie mineure et qui ont reçu des prêcheurs, des chrétiens judaïsants, qui cherchaient à leur imposer la circoncision et toutes les traditions juives. Je vous invite à lire l'épître aux Galates en entier. Ici, je vais juste rappeler qu'est-ce que Paul écrit à ce sujet. Il traite ces prêcheurs judéo-chrétiens de bandits, de voleurs de liberté. Il reproche aux Galates d'être stupides et leur demande même sur un ton ironique s'ils n'ont pas été ensorcelés. Certains vont dire qu'il s'agit de l'action de Paul et que le rapport du Christ vis-à-vis de la loi est tout autre. Eh bien, voyons cela. Si l'on considère comment le comportement du Christ est perçu vis-à-vis des puretés, de l'idée de pureté rituelle du monde judaïque de son époque, il est difficile d'en dresser le portrait d'un pharisien parfait. Les pharisiens furent un courant donc judaïque spirituel de l'époque du Christ, composé de juifs laïcs, qui ne sont pas membres du clergé du temple, qui se dévouaient à mener une vie de piété respectant la loi mosaïque, dont l'orthopraxie stricte rythmait et encadrait leur vie sous tous les aspects. Je dirais même que la foule des pharisiens réprochait au Christ, ainsi qu'à ses disciples, de ne pas respecter la tradition des anciens, ainsi que le fit le Christ en se nourrissant en présence des personnes impures, les pécheurs, les publicains, les prostituées, sans compter que le fait que le Christ s'est permis d'adresser la parole à une Samaritaine, une femme issue d'un peuple méprisé par les Juifs, bien plus que les païens, ce que provoqua une incompréhension même chez les disciples du Christ. L'épisode de la femme souffrant d'hémorragie nous montre aussi que le Christ la guérit et ne se met pas en colère. Il ne s'estime pas souillé à son contact, pourtant contaminant du point de vue du livre du Lévitique. Jésus met en panne tout recours aux catégories du pur et de l'impur. Le Christ attaquait en outre directement les pharisiens en ces termes. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, alors qu'à l'intérieur, ils sont pleins du produit de vol de vos excès. Pharisiens aveugles, nettoie d'abord l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Cette citation condense l'idée d'une pureté qui s'est déportée d'une orthopraxie rituelle à une antériorité subjective. Ainsi, le pharisien, dont les scrupules se limitent à se purifier par soumission aveugle à la loi, est le même qui ne se préoccupe pas de purifier son âme souillée de vol et d'excès divers. D'aucuns affirment que le Christ suivait lui-même à la lettre la loi mosaïque, qu'il n'était pas là pour abolir la loi, mais qu'il était là pour accomplir, sans pour autant remarquer l'ironie dans le simple fait que le Christ, juste après avoir dit ça, corrige Moïse à plusieurs reprises.
Alors en fait, la suite est intéressante aussi parce qu'il dit en effet, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, pas une seule lettre ni un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi avant que tout ne soit arrivé.
Oui, mais le problème, c'est que le ciel et la terre se sont déjà unis en lui.
Oui.
Donc, sans annuler pour autant les rites du temple judaïque de son vivant avant sa crucifixion, le Christ insiste en outre sur le fait que l'état de paix intérieure qui prime sur la nécessité de faire des offrandes. De plus, le Christ insiste sur la discrétion des pratiques religieuses, qu'il s'agisse de bonnes actions ou des prières, afin qu'elles ne soient pas réalisées pour susciter l'approbation. Évidemment, ce genre de critique ne pouvait pas ne pas susciter la colère des individus concernés, à tel point que tout se termine au tribunal de Synédrion, qui le condamne à mort pour blasphème, car il se fait Dieu. Quelle ironie de constater que ce furent les croyants qui condamnent leur propre Dieu à mort au nom de la loi qu'ils croyaient divine. Il est donc assez étonnant, après tout cela, de voir apparaître des groupuscules qui se réclament chrétiens, ayant eux-mêmes zéro origine juive, et voulant réinventer la roue en nous imposant la cache-route. Surtout que ceux-là n'ont aucun lien historique avec la communauté de l'apôtre Jacques, dont ils se réclament. Nous recensons des groupes chrétiens judaïsants qui apparaissent dans les lieux différents, de manière indépendante les uns des autres, à peu près tous les 200 ans, et à chaque fois nous avons affaire au même discours. J'espère que vous êtes maintenant prêt à vous défendre si nécessaire, si vous êtes face à ce genre d'arguments. D'ailleurs, si vous voulez des exemples d'arguments moins généralisés mais ciblés en fonction d'un interlocuteur type qui représente une certaine école de pensée, écrivez-nous et c'est peut-être là que nous allons faire une émission spéciale en présentant les arguments et les contre-arguments que nous pouvons rencontrer sur le terrain.
Eh ben avec joie, volontiers. Merci beaucoup, Justina. C'est une très bonne idée. Alors, à présent, nous allons écouter un autre magnifique texte de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort. « Je mets ma confiance sur un air breton traditionnel » que vous trouverez sur la chaîne YouTube des Cantiques catholiques.
Je mets ma confiance, Vierge, en votre secours. Servez-moi de défense, prenez soin de mes jours, et quand ma dernière heure viendra fixer mon sort, obtenez que je meure de la plus sainte mort. Sainte Vierge Marie, asile des pécheurs,
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Alors, Anne Tabas, merci beaucoup de revenir pour cette troisième partie. Je vous propose maintenant d'approfondir l'enseignement du Père de Montfort au sujet de la parfaite dévotion à la Vierge Marie.
Alors, en effet, le Père de Montfort nous dit « C'est par la très sainte Vierge Marie que Jésus-Christ est venu au monde. » Donc ça, c'est ce qu'on a vu la dernière fois.
Oui.
Et c'est aussi par elle qu'il doit régner dans le monde. Voilà. Donc pour lui, il ne s'agit pas simplement, la dévotion à la très sainte Vierge Marie, c'est pas juste dire des prières, même si c'est la base. Hein, pour lui, le rosaire, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Cette succession d'Ave Maria, qui sont des paroles qui sauvent. Même si c'est Dieu, Jésus, qui sauve sur la croix, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, et qui est victorieux d'ailleurs sur la croix. Jésus a vécu tous ces moments avec la Vierge Marie. Et donc, le chapelet, le rosaire, qui est cette succession d'Ave Maria, de Je vous salue Marie, en fait, ont un pouvoir de salut également. Et alors, le Père de Montfort, lui, il va vivre de manière radicale son amour filial pour la Vierge Marie. Et là, je le cite, il veut tout vivre par elle, avec elle, en elle et pour elle. Voilà. Donc ça peut paraître excessif, et pourtant on va voir que son enseignement s'enracine toujours dans la Bible, et plus particulièrement dans deux décrets divins. Le Père de Montfort, il n'invente rien, il se fonde vraiment sur la parole divine. Et donc à partir du moment où il arrive à nous faire distinguer le fait d'adorer Dieu du fait d'honorer Marie, alors il est possible en toute liberté d'honorer sans limite la Vierge Marie, qui est la mère de Dieu et la mère des hommes. Et on ne fait pas ombrage à Dieu en honorant la Vierge Marie, parce que le culte rendu à Dieu est celui de l'adoration, qui est distinct du culte rendu à la Vierge Marie, qui est celui du fait de l'honorer. Et après, l'amour qu'on a pour Dieu et l'amour qu'on a pour la Vierge Marie, les deux en fait... vont grandir ensemble.
Il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de concurrence.
L'un en fait développe l'autre. Et donc la dernière fois, nous avons vu que la Vierge Marie, elle était présente au tout début, bien sûr, de la vie humaine de Jésus, puisque elle conçoit en son corps le corps de Jésus, son âme, sa divinité. Et on va voir que ce don, en fait, il a été constant jusqu'à la dernière heure de Jésus. Et la dernière heure de Jésus, sa dernière heure de vie humaine, elle est sur la croix. Ouais. Et donc là, on va poursuivre un petit peu la dévotion qu'on peut avoir à la Vierge Marie au pied de la croix. Elle a élevé Jésus, donc après sa naissance, elle a élevé Jésus avec Saint Joseph. Elle l'a accompagné pendant toute sa vie apostolique. Elle est présente pendant sa passion, son chemin de croix. Elle croise Jésus pendant son chemin de croix. Elle est là aussi à la croix. Et donc, on retrouve Marie au pied de la croix. Et on se rappelle cette réponse qu'elle a faite à l'ange Gabriel. Et l'ange Gabriel, bien sûr, est présent à ses côtés au pied de la croix. C'est son ange gardien. Il la soutient. Et elle se rappelle de ses paroles. « Voici la servante du Seigneur. » Que tout m'advienne selon ta parole. Et elle est servante du Seigneur au pied de la croix. Sa présence est amour, offrande, prière au Très-Haut. Elle consent librement au sacrifice de son Fils, comme elle a consenti librement au fait de l'accueillir en son sein. Et puis lui reviennent aussi au pied de la croix ses paroles. C'est un chant de joie quand elle attendait Jésus, mais ça demeure. Même si là maintenant c'est dans l'épreuve. Elle se souvient que la miséricorde de Dieu, sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il relève Israël son serviteur. Elle a bien conscience de tout cela. Elle voit bien que Jésus, en ce moment, sur la croix, même s'il n'a plus figure humaine, eh bien il est en train de relever Israël. Il est en train d'accomplir les promesses qui ont été faites à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Voilà, les paroles du Magnificat, elle peut les méditer toujours et elle les récite dans son cœur. Et donc là maintenant, on se tourne vers Jésus qui est en haut de la croix.
Et donc vous allez faire un parallèle
voilà.
Avec entre... cette fin, cette mort sur la croix, c'est les paroles du Seigneur sur la croix.
Voilà, qui sont comme son testament. C'est-à-dire que les sept paroles du Christ en croix, c'est un résumé de tout ce que Jésus a pu proclamer pendant les 3 années de son évangélisation.
Sa vie publique.
C'est vraiment son testament spirituel. Et la Vierge Marie, elle est là et elle est témoin de ce testament. Elle voit son fils qui est à bout de souffle. Les phrases sont courtes, parfois juste un mot. Et Marie les recueille chacune consciencieusement. Et comme dit la parole de Dieu, elle méditait tout cela dans son cœur, avec foi. L'apôtre Jean est là à ses côtés. Et donc on arrive au chapitre 19 de l'évangile de saint Jean. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère: « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple: « Voici ta mère. » Jésus est mourant, il n'a plus figure humaine, et pourtant il n'en est pas moins Dieu dans sa pleine souveraineté. Et là je fais une petite aparté parce que parfois la croix, on ne comprend pas tellement ce que ça signifie. Et la croix en fait c'est la victoire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, donc peu après ces paroles où il va s'adresser à sa mère, Jésus va dire « Tout est accompli ».
Oui.
Et ça signifie en fait que sa mission de sauver le monde est accomplie. Et comme il a une parole qui est une parole performatrice, hein, la parole c'est une parole divine, c'est-à-dire qu'elle réalise ce qu'elle dit au moment où il dit « mission accomplie », donc ce qui signifie « j'ai sauvé le monde, j'ai sauvé toute l'humanité », eh bien c'est le signe de la victoire. Et à ce moment-là d'ailleurs, quand il sur la croix, avec toute sa... comment dire, toute sa dignité de sauveur, il explique qu'il est vraiment, il a accompli sa mission de sauveur à ce moment-là. Et donc sa mère est présente. Et ce qui va être important à ce moment-là, c'est que au moment où il dit à saint Jean, voici ta mère,
oui.
Là de même, c'est une parole divine et donc c'est une parole qui va dépasser juste le fait que la Vierge Marie soit la mère de saint Jean. Déjà physiquement, ce n'est pas elle qui l'a mis au monde. Mmh. Mais comme la parole de Jésus, c'est une parole divine, c'est une parole qui devient créatrice à ce moment-là, sur la croix.
Ouais, c'est très beau ça.
Et quand il dit « voici ta mère », eh bien à ce moment-là, la Vierge Marie devient effectivement la mère de saint Jean. Et comme c'est une parole qui, à travers saint Jean, s'applique à toute l'humanité passée, présente et à venir, parce que la parole de Dieu, en fait, elle est globale, voilà, elle ne se limite pas juste à ces quelques mots, et bien à partir de ce moment-là, au pied de la croix, Marie devient mère de tous les hommes. Et donc on peut dire que c'est un décret divin,
oui.
Parce que Jésus, sur la croix, eh bien, il n'en est pas moins Dieu. Et donc, tout ce qu'il dit a valeur de commandement, quelque part, et de décret. Et rien ni personne ne peut aller contre cette réalité. Autant on peut choisir d'être chrétien, de suivre Jésus, d'avoir Dieu pour père, si on se fait baptiser, autant la Vierge Marie, on la reçoit pour mère sans avoir rien à faire.
Sans rien demander.
Ce n'est pas par le baptême qu'on est enfant de Marie. On est enfant de Marie par décret de Jésus. Donc dès le moment de notre gestation, quand on est dans le sein de notre mère, on est déjà enfant de Marie. Voilà, quand on pense à tous ces petits qui sont dans le sein de leur mère, parfois verront-ils le jour ou pas, on ne sait pas. En tout cas, ils sont déjà sous la protection de la Vierge Marie. Et puis, pour aller plus loin, quelle que soit notre religion, on peut être catholique ou pas, la Vierge Marie, c'est vraiment la mère universelle.
Merci beaucoup, Anne. Eh bien, nous avons encore des choses à nous dire et je voudrais vous dire que je suis très contente que nous poursuivions encore une fois la semaine prochaine. Merci beaucoup. Donc, nous parlerons notamment des kilomètres parcourus par le père de Montfort parce qu'il était en mission sur toutes les routes de France ou peut-être...
Il a traversé la France puisqu'il a été à pied de la Bretagne jusqu'à Rome.
Oui.
Déjà, alors, rien que pour ça.
Beau pèlerinage. Très bien. Bon, merci beaucoup Anne, merci Justina.
Merci.
À la semaine prochaine.